De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucie Dale Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On est de retour à On a des choses à dire avec Laurent Cournoyer de Cournoyer Publications. Comme je disais tantôt, il a mis son chapeau de Cournoyer Publications. Laurent, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Laurent, une belle édition qui veut donner un souffle quand même, quoique pas mal positif finalement, sur un regard que pose une quarantaine d'intervenants de la région sur l'avenir économique de la région.
Oui, tout à fait. En fait, depuis la création du magazine en 1999, on a à chaque 4 ans, à la veille des prochaines élections, bien entendu, on fait toujours un bilan avec les gens d'affaires. Et cette année, on va faire une autre formule où on va interviewer le plus de gens d'affaires possible. Et à notre grande surprise, il y en a 40 qui ont répondu positivement et on les laissait s'exprimer sur le bilan actuel qu'ils en font au niveau économique. Mais surtout, l'objectif, c'est pour eux quelles devraient être les priorités pour l'avenir et pour eux, c'est quoi les perspectives pour l'avenir économique. Évidemment, c'est un magazine d'affaires, donc la seule et unique question, c'était sur l'orientation économique, là.
Est-ce qu'on a été surpris des commentaires qui ont été émis?
Ben, c'est des gens que, bon, en tant que président de la Chambre de commerce, c'est des gens que je côtoie, que je vois régulièrement, à qui je parle toutes les semaines. Donc, j'ai vu dans les textes, pour la plupart, le reflet de leurs pensées sur le diagnostic de la situation actuelle, puis vers où on devrait s'orienter, puis mettre des efforts pour le futur. Je suis pas vraiment surpris de ce que j'ai lu, mais je pense que la plupart ont eu l'honnêteté, là, si je peux me dire ainsi, de s'exprimer clairement sur le bilan, puis sur qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant pour le futur.
Si on veut faire un résumé, là, si on essaie de compiler l'avis de tous et chacun, quel portrait on peut en tirer?
En fait, c'est relativement positif sur... la nature humaine telle qu'elle est, puis surtout pour les gens d'affaires, on est toujours optimiste puis positif. Ouais. Et on veut toujours regarder les bons côtés de la chose. La plupart se sont exprimés assez clairement sur quels devraient être les projets à prioriser. Le son de cloche est assez positif. Il y a quand même un nombre de négatisme qui est pas nécessairement particulier sur El Tracy, mais bon, on a vécu de l'austérité au Québec là, dans les dernières années. On a un climat économique mondial qui est un peu incertain. Les choses bougent beaucoup. La grande industrie roule plus au ralenti que d'autres années où ça roulait plus à fond de train. Donc, il y a beaucoup de mouvances. Donc, les gens d'affaires ne sont pas insensibles à ça. Et en affaires, le pire ennemi, c'est l'instabilité, hein, puis l'inconnu. Donc, c'est sûr que ça a un impact à différentes sphères au niveau de l'économie. Mais règle générale, les gens d'affaires demeurent de nature optimiste. Et puis, je dirais que le portrait de ce qu'ils voient pour l'avenir est tout de même quand même positif.
Dans le mot de l'éditeur, tu mentionnais que tu souhaitais que cet exercice-là donne de la matière aux candidats qui seront dans les différentes municipalités, candidats pour les postes électoraux.
Oui, ben en fait, on a une belle tribune de gens d'affaires. Je siège présentement au niveau de la Chambre de commerce sur le comité régional de développement à la MRC. Et bon, c'est toujours les mêmes gens. On est une 12, 14 personnes autour de la table, puis on se projette dans l'avenir pour... pas uniquement économique. Moi, je représente l'économie là, pour la Chambre de commerce, mais je pense que toutes les sphères sont bien représentées. Ouais. Et là, on a une belle tribune avec ces 40 gens d'affaires-là qui sont des gens influents, des gens de toutes les sphères de l'économie locale. On a une belle tribune pour passer un message à ceux qui vont se présenter lors des prochaines élections en novembre prochain. Ce seront les élections municipales. Donc, autant pour toutes les municipalités, que ce soit des conseillers municipaux, des maires. Je pense qu'on a un message qui est clair, qui ressort de ces témoignages-là.
Oui, ce qui ressort aussi de ces témoignages-là, dans les souhaits, si on peut le dire comme ça, c'est que le plan stratégique là, dont on vient de parler, de celui de la MRC, et dont on a parlé au cours des dernières émissions, c'est quelque chose que tout le monde attend, et on va probablement tous se rallier et miser sur cette démarche-là pour franchir une nouvelle étape là, dans notre volonté d'avoir un développement économique positif.
En fait, cette initiative-là qui date d'il y a un an, ce projet-là sur lequel on travaille presque hebdomadairement là, depuis le début de l'année, on se rend compte aux deux semaines, aux trois semaines. C'est un peu un outil de travail, justement, pour les prochains décideurs qui seront à la tête des différentes municipalités, de la MRC, du conseil de la MRC. On leur dote, dans le fond, d'un outil qui est très représentatif de toutes les sphères de la population, pas uniquement économique, mais bon, l'économie en fait largement partie, là, parce qu'il y a quatre enjeux, puis deux qui sont, disons, caractère économique.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un bel outil, puis je pense que ça va doter les... un peu le conseil de la MRC vers les grandes orientations de ce que les gens de la région veulent pour l'avenir, puis comment se positionner. Donc, c'est un outil très intéressant. Et on a un objectif, c'est de sortir rapidement en juillet, justement, avant la campagne électorale, pour que les gens qui... les prochains conseils de ville... Parce qu'en fait, c'est un dossier qui va être porté par les élus de la région. Bon, chacun des membres du comité est prêt à prendre des rôles pour faire aboutir différents projets qui vont être présentés là-dedans. Mais ultimement, les sous appartiennent aux municipalités, puis l'effet de levier, c'est les municipalités puis la MRC. On peut bien avoir plein de projets, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des sous rattachés à ça si on veut mettre de l'avant des différentes initiatives.
La liste d'épiceries là, des différents intervenants qui ont été questionnés, je regarde, j'en ai retenu quelques-uns. Là, on parle de grand leadership dont on a besoin, et ça, c'est partout à la grandeur de la MRC. Plus de PME à établir aussi pour augmenter, d'une part, l'offre, mais aussi la population, la diversification de cette offre-là, des infrastructures qui favorisent l'établissement de nouveaux résidents, de nouvelles entreprises. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'oublie?
Main-d'œuvre, les jeunes qu'on veut garder dans la région.
Ben, en fait, c'est un peu ça qui était notre leitmotiv lorsqu'on a entrepris cette démarche-là. On s'est dit, ultimement, il faut renouveler notre population. Il faut que les jeunes soient tentés de rester dans la région de Sorel-Tracy ou de revenir à Sorel-Tracy après leurs études. Il faut de l'emploi, il faut créer la richesse pour la communauté, il faut avoir donc des entreprises qui s'établissent. Donc, ultimement, on fait tout ça pour la pérennité de la population. Donc, évidemment, dans un meilleur des mondes, une croissance de la population éventuellement, parce que l'impact, il devient économique, il y a un impact partout. Si la population croît, je donne des fois à titre d'exemple à la municipalité de la ville de Saint-Hyacinthe qui a à peu près 56 000 habitants. Se sont donnés en début de 2020, je crois, 2022, un objectif d'atteindre 60 000 habitants. Ça, je trouve que c'est un objectif qui est sage, qui est atteignable, qui est réaliste, qui est ambitieux aussi à la fois, mais ça donne un sens à tous les efforts de la région de Saint-Hyacinthe. Je pense qu'on doit se doter de cette planification stratégique-là, parce qu'elle n'existe pas ou elle existait à une autre époque, pour justement donner un sens à tous les efforts communs. Il faut que les intervenants travaillent tous ensemble avec des objectifs communs qui auront été décidés par tous ces leaders-là, ces intervenants-là. Et actuellement, ça fait défaut. Donc, la planification stratégique arrive au bon moment, je pense.
Oui, ça arrive au bon moment. Par contre, comme on vient de le dire, je pense que ce que les gens entendent, c'est une action concertée, un travail d'équipe, parce qu'on a beau avoir le plus beau des plans, c'est dans l'action qu'on va retrouver les résultats. Et pour se situer dans l'action, bien, il faut être capable de travailler en équipe. Est-ce qu'il y a des façons d'y arriver qui devraient être retenues? Est-ce qu'on peut convaincre les gens que peu importe le plan de... stratégique qu'on va développer, il y aura par la suite un nouveau dynamisme, on va dire comme ça, qui va permettre de travailler en équipe et d'aller au bout de ces projets-là.
Je pense que le fait qu'il y a 12, 13, 14 ou 16 organismes qui sont en arrière de cette planification stratégique-là, ça va prendre du courage pour l'ignorer. Donc, je pense que si cette planification stratégique-là, elle est appuyée, puis elle est... chacun des organisations fait la promotion, puis chacun fait son petit bout pour aboutir à des actions. Ça sera plus l'œuvre d'un politicien de dire on ignore ça, puis ce sont que mes projets personnels qui vont prendre l'avant. Je pense que c'est un automatisme. Il n'y a personne qui va pouvoir, aucun élu à mon avis, va pouvoir ignorer cette planification stratégique-là, qui est faite aussi avec eux et avec les intervenants. Et pour moi, ben un travail d'équipe, c'est que chacun était impliqué dans toutes les décisions. J'y ai participé à toutes les rencontres. Chacun a pu donner son point de vue sur quelles devraient être les priorités, comment on devrait les orienter. Puis la population aussi a été beaucoup impliquée dans les consultations. Fait que je pense que c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas un élu qui va pouvoir ignorer, à mon point de vue, cette planification stratégique-là. Et le défi, c'est qu'ils en soient les porteurs. Oui. Ils détiennent le fruit de nos taxes. Hein. C'est notre argent, ça, là. Et la population s'est prononcée dans cet exercice-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils auront le mandat avec les intervenants puis les différents organismes de réaliser ces actions-là. Il y a eu peut-être trop de planifications stratégiques ou de plans dans le passé qui sont demeurés sur les tablettes pour différentes raisons. Ouais. Mais je pense que, bien honnêtement, cette fois, c'est la bonne. Et je n'ai pas participé honnêtement au processus des anciennes planifications stratégiques parce qu'il y en a depuis, je pense, le début des années 90. Mais là, on sent vraiment une urgence et... je vais reprendre les paroles de Denis Marion, qui en est le président du comité. On n'aura pas de deuxième chance cette fois-là. Et on n'a pas le choix. On a une obligation de résultat, puis on a une obligation de réussir cette planification-là.
Ouais, je crois que oui.
Et l'échéancier, ben, c'est justement la fin de l'été, au début de l'automne.
Ben, en juillet, ça sera présenté au conseil de la MRC. Et puis, justement, l'objectif, c'était qu'avant que la campagne électorale s'annonce, que ces gens-là aient un outil dans les mains, puis qu'ils regardent s'ils sont les bonnes personnes pour le réaliser, ce plan-là, avec les intervenants du milieu.
Parlant d'avoir l'outil dans les mains, ben le magazine Contact Affaires contient plein de pistes de réflexion, à tout le moins.
Exactement.
Alors les gens d'affaires pourront l'avoir en main au cours des prochains jours.
Oui, à partir de demain et lundi, la distribution sera effectuée. Mais pour toute la population, le magazine est présentement en ligne sur contactaffaires.com. On va dans l'onglet nos parutions, là, ça aurait le tracé, on voit rapidement. En couverture, il y a 40 photos des 40 personnes. Les 40 personnes ont été choisies. Il y a eu une invitation à tous les politiciens. Seulement deux ou trois n'ont pas donné suite sur l'ensemble. Et une bonne diversité jeune. Il y a même le président de la GEST du Cégep qui se prononce. Donc, on a essayé d'avoir un portrait des gens bien établis. Écoutez, il y a eu plus d'une cinquantaine d'invitations et une quarantaine ont répondu rapidement.
C'est excellent.
Donc, on est très, très fiers de cet exercice-là. Et si ça peut être utile, c'est un peu ça, hein, la mission du Contact Affaires, d'être utile puis donner la voix aux gens d'affaires.
On a eu un accès privilégié à l'avance, puis on peut dire, on peut rassurer les gens, ça se lit bien. Ce sont de courts témoignages.
Exactement. C'est deux, trois petits paragraphes pour chacun. Ouais. Et chacun, la plupart font un bilan et la plupart donc donnent des pistes ou, à leur point de vue, des priorités à mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand l'économie va, tout va. Hein. C'est un cliché, là, mais quand l'économie va, l'emploi va, les entreprises s'établissent, la richesse collective est grandissante, on peut investir dans les loisirs, dans le communautaire. Donc, c'est le nerf de la guerre. Il faut réussir à développer notre économie puis enrichir collectivement la région.
Oui.
Laurent Cournoyer, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Quant à nous, on va justement, un de ces 40-là et notre prochain invité, le collaborateur de la semaine, de la dernière semaine dont on a des choses à dire pour cette saison, Yves Bérard, est avec nous après ceci.